retrouvons l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, François Sureau. Votre réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïz et plus généralement à la séquence politique?
Alors, c'est vraiment une réaction de citoyen amateur, hein. Ça n'a rien à voir avec mon métier. Moi, je suis comme tous les Français, j'adore la politique. Ce qui me fascine dans l'affaire de l'abstention, c'est qu'elle peut manifester aussi une espèce de trouble profond, en dehors du fait que les Français sont vraiment lassés d'aller voter, mais une espèce de trouble profond des Français devant la recomposition du discours politique et du personnel politique. Il est en train de se passer des choses fascinantes. Au fond, dans l'élection présidentielle, il y avait deux candidats réformateurs et trois candidats de la ligne Maginot. Les deux réformateurs, c'était Fillon en version purgatif, Macron en version optimiste. Et tous les autres étaient les adeptes de véritables dingueries. C'est-à-dire la dinguerie babouviste pour Mélenchon, la version...
Gracchus-Babeuf, je rappelle... Voilà,
la conspiration des égaux. La version laïque des réductions jésuites du Paraguay, où les jésuites auraient été remplacés par des militants du Parti Socialiste pour Hamon, qui se proposait exactement...
Ça c'est plutôt bien, puisque vous avez écrit sur Loyola.
Oui, j'adore ça dans l'univers jésuitique. Maintenant, le fait de vivre moi-même dans une France réduite aux dimensions... laïque d'une réduction jésuite du Paraguay, d'accord, m'inspirerait probablement un peu d'horreur.
Jésuitisme doit rester chez les jésuites.
Je suis assez d'accord. Et puis la dinguerie...
C'est votre réaction que je vous laisse, pas la mienne.
Oui, non. Et puis, mais je suis content que vous l'ayez donné quand même. Et puis, il y avait derrière la dinguerie xénophobe et raciale. Bon. Et en face de ça, il y avait les deux candidats. Alors, l'un des deux candidats de la réforme purgative, Fillon, est passé à la trappe. Le résultat de tout ça, c'est que maintenant se préparent à rejoindre Macron, et l'ont d'ailleurs rejoint comme le Premier ministre, des types qui, à droite, appartenaient au camp le moins réformateur. Ce qui fait que le programme des Républicains maintenant se situe à gauche de celui du président Macron, en réalité, quand on le lit attentivement. C'est absolument fascinant. Alors, est-ce que c'est ça une des explications de l'abstention éventuelle des Français qui ne se reconnaîtraient pas dans ce débat politique, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Moi, j'attends de grandes choses de cette élection. Imaginez qu'il y aura peut-être la moitié des membres du Parlement qui n'auront jamais fichu les pieds dans un hémicycle, dirigé par, avec comme Premier ministre, un gouvernement dirigé par un ancien juppéiste transfuge de la droite appuyé sur ses dix potes, et tout ça avec au sommet le maître de nos destins, un gars qui n'avait jamais fait de politique il y a 4 ans. Je trouve ça fantastique. Ça fait 30 ans que les gens de ma génération disent « quand même, ça pourrait changer ». On vit depuis 30 ans dans cette espèce d'ambiance d'amertume, c'est dégueulasse, toujours les mêmes, etc. Et là, tout d'un coup, ça va être le Big Bang.
Mais alors, vous trouvez que ça change de trop ?
Non, j'adore ça. Il en résultera probablement...
C'est pas seulement le point de vue de Sirius que je demande, parce que vous
non,
savez
non,
aussi,
non,
vous
non,
êtes
il
citoyen,
en
maître.
Non, mais en tant que citoyen, je trouve qu'il en résultera un bordel et une entropie bienvenue. C'est-à-dire que nous vivons depuis 10 ou 20 ans dans quelque chose de tout à fait particulier, qui est la prise en main permanente d'une classe politique inculte et décadente par une administration procéduralement formatée.
C'est pas parce qu'elle est nouvelle qu'elle est moins inculte que l'ancienne.
Non, mais elle sera moins prise en main par l'administration. Le type qui arrive, avant qu'il se fasse prendre en main par un sous-directeur, il faudra quand même qu'il se passe 6 mois, et dans ces 6 mois, il peut se passer des trucs. Voilà.
Le premier projet de loi, celui sur la moralisation de la vie publique, on dit pas moralisation de la vie publique, on dit qu'on va regagner en confiance, il est soutenu par François Bayrou, c'est une bonne chose, c'est un bon projet de loi, maître ?
Écoutez, moi je suis assez inquiet sur ces projets, je vais vous dire pourquoi. Je trouve que je suis très adepte de la moralisation, comme on dit, de la vie publique. Je pense que ça marche dans des sociétés qui sont des sociétés de confiance. Une fois que vous avez une société de confiance, vous mettez à disposition législative pour vous indiquer les bornes. Les Français sont, à cause de ce qui vient de se passer depuis 20 ans, dans une situation de défiance profonde à l'égard de leur personnel politique. Je ne voudrais donc pas que cette loi serve de prétexte à l'adjonction d'une forme de dinguerie supplémentaire. Je vous prends un exemple qui m'avait beaucoup frappé au cours de la campagne. On a créé une haute autorité de la transparence. Elle vérifie que entre l'entrée et la sortie de fonction, le personnel politique ne s'est pas enrichi. Sur la base de ces chiffres, tout le monde regarde l'argent qu'a gagné M. Macron quand il travaillait dans une banque. Et tout d'un coup se développe un débat pour savoir ce qu'il a fait de cet argent, comment il l'a dépensé. Et là, je me suis dit, vraiment, les bornes ont été franchies. S'il a voulu s'acheter 4 costards par jour, fumer 18 boîtes de Balkan Sobrani pour la pipe à 25 grammes, ou entretenir 4 potes dans le besoin, je ne veux pas avoir à le savoir. Ce que je crains avec cette loi de moralisation, c'est qu'elle soit à nouveau un nouveau prétexte pour une ressucée de dinguerie antipolitique dont nous avons désormais d'autant moins besoin que la classe politique précédente est en train de passer à la trappe. Donc tout ça me va très bien. Par ailleurs, l'ironiste en moi est quand même assez éberlué de voir le garde des Sceaux défendre une loi de moralisation dans laquelle il y a cette idée que quand on a été condamné en correctionnel, on peut pas accéder à une fonction publique, alors que le seul candidat qui l'ait soutenu du fond du cœur au début de cette campagne était aussi le seul candidat à avoir jamais été condamné en correctionnel, à savoir Alain Juppé. Mais je pense que ceci fait partie de l'ancien monde.
Vous auriez soutenu un candidat condamné, maître ?
C'est une vraie question. En principe, je pense que oui. En principe, je suis très, très... ça dépend pourquoi.
Non, mais vous êtes un bon connaisseur du Conseil d'État et l'idée selon laquelle la peine purge la faute, on peut dire cela
oui,
ainsi en démocratie,
exactement.
Est-ce que l'on peut, en quelque sorte, sauf peine d'inéligibilité temporaire ou longue, puisqu'il ne peut pas y avoir de peine définitive d'inéligibilité...
Vous avez tout à fait raison. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est je vois pas de raison de faire une exception au principe traditionnel du droit pénal. Et on en fait absolument tout le temps, hein, comme quand on juge en matière de rétention de sûreté qu'une fois qu'un type a purgé sa peine, on peut le maintenir en prison parce qu'on le juge dangereux. Après tout, l'interdiction de vie politique après la condamnation, c'est exactement la même chose. C'est comme une sorte d'interdiction de la récidive. C'est quelque chose qui me trouble profondément. Notre système, en ce qu'il a de civilisé, c'est vous êtes condamné, vous purgez votre peine, et puis ensuite, on efface tout et on recommence. Et on peut recommencer. Je ne vois pas de raison de faire échapper les politiques à cette possibilité de la rédemption civique, pas plus que je ne vois de raison d'exclure ad infinitum les délinquants en général de la société civile. Et donc je suis assez contre ces idées-là. Maintenant, je pense que nous avons vécu sous un tel régime d'arrangement et d'accommodement ces 20 dernières années, qu'il n'est pas absurde de paraître donner un grand coup de trompette pour expliquer que tout ça c'est fini. Mais ça me gêne, vous voyez, quelque chose me gêne là-dedans.
On a parlé des jésuites et un peu de Loyola François Sureau. Il y a eu énormément de débats sur la question de la laïcité en France, et cette question de la laïcité, elle rejoint la question des libertés publiques, une question qui vous est chère. Aujourd'hui, est-ce que vous jugez là aussi que ce débat témoigne finalement de notre détestation française pour les libertés publiques?
Je crois qu'en réalité, on n'a pas de problème avec la laïcité, on a un problème avec l'islam. Alors, si vous voulez, comme toujours, je suis très frappé de notre manière de poser un débat absolument général par cet effet étrange de cécité collective qui veut que nous n'adressions pas, entre guillemets, le problème. La France avait un problème avec le catholicisme politique, globalement, du Concordat à 1905 et peut-être même après la Première Guerre mondiale. Et elle l'a réglé par un débat véritable avec le catholicisme politique. Et la loi de 1905, en fait, n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, une loi de laïcité. C'est une loi qui vise à organiser les relations entre la religion dominante et le pouvoir d'État. Et je trouve ça absolument normal. Faut-il en déduire une espèce d'idéologie ou de religion de la laïcité générale ? J'ai les plus grands doutes là-dessus. En revanche, faut-il trouver une manière intelligente de traiter la question de ce qui, dans une religion particulière, peut apparaître à un moment politique donné comme contraire à nos valeurs, sur le problème de la liberté de conscience ou du droit de la femme, par exemple ? Ben oui, il faut certainement en parler. La difficulté, c'est que je trouve que l'État est curieusement, aujourd'hui, le moins bien placé pour traiter cette question.
C'est-à-dire ?
Bref, je pense qu'il y a une... C'est-à-dire que, si vous voulez, globalement, l'activité risible consistant à confier à des sous-préfets le soin de discuter avec des imams pour savoir si la troisième sourate est conforme ou non aux droits de l'homme est un truc qui me fait me taper le derrière par terre. En revanche, je pense que nos compatriotes musulmans sont tout à fait, qui aiment la France autant que nous et ses traditions autant que nous, sont tout à fait suffisamment armés pour provoquer, organiser ce débat qui devrait aboutir à une solution de ces questions sans qu'on ait, pour autant, à se poser tous les matins la question de savoir s'il ne faut pas faire voter des dispositions de loi liberticides.
Et lorsque le Conseil d'État doit trancher des histoires de maillots de bain ?
Et oui, ces histoires de maillots de bain, personnellement, je les trouve assez ridicules. Moi, ce qui me choque, personnellement, hein, c'est que les progrès de l'islamisme radical ont pour effet de diminuer les libertés de tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, maintenant on peut plus se promener voilé dans un espace public. Hein. Si je décidais d'aller en tenue d'homme grenouille à la poste, ce que j'adore faire, je ne pourrais pas parce que trois maboules ont décidé qu'il était conforme au Coran de se mettre des machins sur la tête. Bon. Et ça me semble extrêmement fâcheux. Je pense que ces questions doivent relever, comme dans la tradition juridique française, absolument des autorités locales en fonction de ce qu'elles sentent et de ce qu'elles voient, de ce qui se passe dans leur coin, et par pitié qu'on évite les grands débats de principe sur le burkini. Enfin, on est quand même saisi par le ridicule, quoi. On est la France, on va pas débattre du burkini.
Vous êtes maître également un écrivain, vous avez publié un grand nombre de livres, notamment un récit intitulé « Le chemin des morts » publié chez Gallimard, qui raconte une histoire qui s'est déroulée au début des années 80. Un ancien militant basque refuse à cette époque de rentrer en Espagne après 20 ans d'exil. Il réclame la protection de la France car il se dit menacé de mort dans son pays, et pour la justice française c'est une affaire assez délicate, parce que si on lui donne gain de cause, on y la jeune démocratie espagnole, et si on refuse qu'il retourne là-bas, eh bien c'est en quelque sorte reconnaître qu'il y a encore des franquistes là-bas. Et c'est une belle histoire où il est question finalement de culpabilité. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire à ce sujet? Est-ce que justement l'homme de droit est toujours confronté à la culpabilité?
L'homme de droit, je sais pas, mais moi je l'ai été en tout cas, et si vous voulez, le personnage dont je parle, hein, est un personnage imaginaire que j'ai fabriqué à partir de 3 ou 4 cas différents, dont l'un d'ailleurs, le plus dramatique probablement, n'était pas basque mais africain, que j'ai eu à connaître quand j'étais rapporteur à la commission de recours des réfugiés. Et en fait, ce dont j'ai voulu parler, c'est de cette distance qu'on affronte dans le droit, mais qu'on affronte aussi dans l'administration, ou qu'on affronte dans les fonctions de juge, qu'on affronte comme avocat. C'est cette distance qui sépare le métier qu'on exerce avec les mots qu'on a appris, avec les codes dans lesquels on a appris à travailler, de la réalité, du réel. Pendant un certain temps, on se protège du réel, on essaye de l'organiser, voilà. Et puis à certains moments, le réel revient. Je me souviens, j'avais eu une discussion, c'est exactement ce... Et en tant qu'écrivain, j'aime ces moments-là, ces moments où, d'une certaine manière... les mots s'effacent, les constructions intellectuelles s'effacent et le réel revient. J'avais, dans mon activité de défense des réfugiés, un cas difficile, tous les recours ayant été épuisés, à soumettre à un ministre de l'Intérieur, dont je tairai le nom. Et donc je prends rendez-vous et je vais voir le ministre de l'Intérieur, et ce que le ministre en question me dit m'étonne tellement que, au bout d'un moment, je lui dis, mais pour parler comme ça, il faut vraiment que vous ayez jamais vu un demandeur d'asile. Est-ce que vous avez déjà vu un demandeur d'asile? Et le ministre me répond, j'essaie de ne pas les voir. Si je les voyais, je ne pourrais pas faire mon métier. Et tout d'un coup, je me suis mis à l'aimer pour ça. C'est ça le sujet de, c'est ça véritablement le sujet de ce livre. Autant qu'une question de culpabilité, c'est la question de tout ce qui sépare ces formes sociales que nous créons pour pouvoir vivre en société. Qui sont bonnes, souvent le droit est bon, il est parfois injuste, mais il est bon, les procédures sont bonnes, l'administration fait bien son travail, et pourtant à travers tout ça il subsiste une injustice profonde, une inadaptation, une incertitude à chaque fois qu'on considère un cas individuel. Or ma conviction intime, c'est que et c'est en ça où je rejoindrai les pères jésuites dont vous parliez tout à l'heure, ma conviction intime c'est que à la fin des fins il n'y a que des cas individuels, et que c'est là-dessus que le jugement doit s'exercer.
Pourtant, lorsque vous défendez les libertés collectives, ces libertés-là, justement, elles peuvent permettre, dans les mailles du filet, à un assassin de passer, car on sait très bien que le système est parfaitement subverti par des individus qui en profitent. Et là aussi, la notion de culpabilité, elle doit peser, elle peut peser, par exemple, sur vous, maître.
Oui, c'est toute la... C'est toute la difficulté de ce type d'exercice. Cela dit, ce que je pense, c'est qu'il faut savoir, une bonne fois pour toutes, de quel côté on se trouve. Il n'y a pas de système parfait en ce domaine, et je crois que si on veut vivre dans une société libre, on doit accepter de payer le prix du détournement des institutions de la société libre par les malfaisants. On doit accepter de payer ce prix, parce que si on n'accepte pas de le payer... On tombe alors dans une société non libre, absolument non libre, qui, elle, est totalement irrespirable. Mais c'est en tout cas un dilemme qu'on ne peut pas éviter. Je suis choqué à chaque fois que les gens l'évitent. Je suis choqué à chaque fois que l'humaniste Bélan vient expliquer qu'il n'y a aucun problème et qu'il n'y a absolument aucun risque terroriste, que tout ça, c'est des blagues. Et je suis choqué également à chaque fois que le répressif satanique veut supprimer les libertés de tout le monde en expliquant que nous vivons des temps bien difficiles. En réalité, il y a là-dedans une difficulté des difficultés que Camus avait bien vues hein, en son temps d'ailleurs, et qui sont des difficultés auxquelles on doit faire face, dont on ne peut pas s'exempter. Le courage civique consiste à vivre à l'intérieur de ça et non pas à essayer de les faire disparaître.
Dans l'une de vos interviews, François Sureau, vous avez dit que finalement, le langage du droit n'était pas celui de la morale, je dis en substance, ce que vous évoquiez, et que pour la morale, eh bien, il y avait d'autres disciplines, quoi, en quelque sorte, que le droit, que ça n'était donc pas les notions de bien et de mal que vous distinguiez dans votre exercice d'avocat. Est-ce que c'est pas justement cela le problème ?
Ben, si, et d'ailleurs, c'est ce qui nous garantit l'existence, à mon sens, d'une société civilisée, c'est-à-dire l'existence d'une société dans laquelle la morale est distincte d'une norme qui a essentiellement pour effet de protéger l'ordre social. Par exemple, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis, alors pour le coup, absolument hostile à toutes les tentatives, confessionnelles en particulier, de vouloir revenir sur telle ou telle partie de législation, par exemple l'interruption volontaire de grossesse ou le mariage pour tous, motif pris d'injonctions qui, à mes yeux, sont des injonctions religieuses. Je suis un bon chrétien, je pense que la gourmandise est un péché, je ne vais pas pour autant demander une législation destinée à réprimer le péché de gourmandise. Je pense qu'il y a une séparation absolue à faire entre les deux. Alors la difficulté actuelle, elle vient à mon sens de ce que la morale transcendante et générale n'étant plus généralement partagée à l'intérieur de la société et se fractionnant en moralité relative, les gens investissent le législateur comme les juges d'un désir moral absolument incroyable, comme on le voit dans la loi de moralisation, par exemple.
J'invite nos auditeurs à lire Le chemin des morts s'ils ne l'ont pas fait. C'est votre livre, François Sureau, publié aux éditions Gallimard.